avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit « Allahu Akbar ». Après ça, ils ont dit que « Où est l'argent ?» Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui, au sommaire, reportage dans la zone rouge au bord du fleuve Chari au Tchad. Les perspectives restent sombres pour le Soudan du Sud. L'eau comme paix sociale au Niger. Enfin, au Mali, des femmes se perfectionnent à l'élevage de bétail. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel Plus. Restez avec nous. Nous ouvrons l'émission par le Tchad. Dès juin 2012, dans le cadre de ces mesures de sécurité, le gouvernement avait déclaré zone rouge le bord du fleuve Chari, situé au sud de la ville de N'Djamena. Les activités dans cette zone de plus de 15 km sont interdites, ainsi que la traversée du fleuve. Une décision qui a de lourdes conséquences pour les habitants. Reportage de notre correspondant à N'Djamena, André Kodma-Djingar.
Qualifiée en son temps comme mesure impopulaire et antisociale par la société civile, cette décision a été abandonnée tacitement quelques mois après son application. Mais en juin 2015, la mesure a été réactualisée par le gouvernement suite aux attentats kamikazes perpétrés à N'Djamena par Boko Haram. Ainsi, la traversée de cette zone déclarée zone rouge, les activités socio-économiques telles que la pêche, les marécages et le blanchissage sont strictement interdites. Béro Marc, un père de famille, affirme que toute sa vie est au bord du fleuve.
Moi, c'est depuis le CM2. C'était en 2001. Avec cet argent-là qu'on a fréquenté, jusqu'à arriver à un niveau, maintenant nous sommes mariés, c'est grâce à cet argent que nous nous occupons de notre petite famille, tout ça. Un Tchadien voit un Tchadien, il le reconnaît facilement. Venir directement et confondre tout le monde et dire que tout le monde est ceci, cela, là, c'est ça, la Guinée.
À quelques mètres de lui, l'homme est Francis, un jeune bachelier et ses amis exploitent le sable depuis plusieurs années. Cette activité leur apporte 60 000 à 70 000 francs par mois. Ne sachant que faire face à cette décision, ils sont obligés de négocier avec les agents de la commission mixte pour la sécurité de la ville de N'Djamena pour assurer leur survie.
J'ai duré à peu près 17 ans, j'ai fait ici au bord. On tente même quelquefois des concours, ça ne tient pas. Vu la situation du pays, avec la corruption, tout ça, aller voler là, on voit que ce n'est pas bon. On ne connaît pas d'autres activités que ça. Au début, ils ne les ont pas compris. Ils étaient venus ici pour nous interdire carrément. On s'est organisé pour aller les voir, les poser, nos doléances. Donc, il nous a compris. Mais au moment qu'ils travaillent et qu'on voit leurs hors-bord viennent pour faire leur contrôle, il faudrait qu'on s'arrête nos activités. Bon, quelquefois, ils viennent, ils ne nous imposent pas, mais c'est à notre volonté même, on leur donne quelque chose pour l'été.
Si les autres exploitants s'entendent avec ces agents de sécurité, Bessanger Richard Didier, un fabricant de briques, la trentaine révolue, a du mal à exercer son activité.
Parfois, on vient, il y a d'autres qui nous menacent à ce qu'on ne travaille pas. On retourne à la maison dans la nuit ou après. On ne le voit pas d'abord, on risque de se descendre pour mieux travailler dans 30-45 minutes. Depuis même à nos ancêtres, la même salle, on vivait avec. C'est pas aujourd'hui qu'ils devraient suspendre à ce qu'on ne vient pas au bord. Avant, les briques qu'on gagnait, 300-400 000 par mois. Maintenant, là, même pas 100 000.
Le porte-parole de la police nationale, Paul Manga, a indiqué que cette mesure sécuritaire reste non seulement en vigueur, mais elle est renforcée et élargie tout le long du fleuve Chari jusqu'au sud du Tchad, malgré qu'elle restreint les activités économiques. André Kodma-Djingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena. Et vous êtes toujours à l'écoute de Sahel Plus. Le dossier du jour est consacré au Soudan du Sud. Gouvernement et rebelles qui s'affrontent depuis 20 mois dans le plus jeune état d'Afrique se sont mutuellement accusés cette semaine d'avoir lancé de nouvelles offensives malgré la signature par la rébellion d'un accord contesté, lui, par le gouvernement à Djouba. Un accord qui vise à mettre fin au conflit. Pour une analyse de la situation, nous avons joint Gérard Prunier, chercheur émérite au CNRS et spécialiste de la zone.
C'est un échec de plus. Riak a fait ça purement comme une mesure tactique pour essayer de piéger le camp gouvernemental. si les autres avaient signé, lui, il n'aurait pas signé. Ou enfin, tout ça, ce sont des manœuvres. Personne n'est intéressé par les négociations de paix, ni le gouvernement, ni RIAC.
Donc vous pensez que les 15 jours supplémentaires demandés par la présidence sont là aussi juste une manière de gagner du temps ?
Oui, parce qu'ils sont très embêtés à l'intérieur de leur propre camp. Ils se disputent tous les uns les autres. Ils ne savent pas quoi dire. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça que RIAC a signé, pour essayer de les mettre en position difficile.
Pourquoi se rendent-ils alors à toutes ces rounds de négociations ? Est-ce que c'est pour éviter que ces fameuses sanctions tombent ?
Bien sûr. C'est purement une pièce de théâtre qui est jouée pour le bénéfice de la communauté internationale, qui d'ailleurs commence vraiment à bien se rendre compte qu'il s'agit d'une pièce de théâtre.
La menace des sanctions internationales est agitée fréquemment. Est-ce que ces sanctions pourraient vraiment être efficaces ?
Non. On préfère les éviter essentiellement pour des raisons personnelles, parce qu'il y a un certain nombre de leaders dont les noms sont connus qui risqueraient de voir leur compte en banque coincé et leurs intérêts économiques attaqués. Mais au niveau national, non, ça n'aurait aucune efficacité.
À vous entendre, le bilan est assez sombre. Est-ce qu'il y a une perspective ?
Non. Il n'y aura pour le moment qu'une continuation des opérations militaires. Et ça peut durer assez longtemps parce que les deux camps sont à peu près équilibrés en termes militaires et qu'on ne voit pas l'un des deux écraser l'autre. Donc la guerre va continuer et les civils continueront à en payer le prix pendant longtemps.
Quelle solution peut-on envisager pour vous ?
Pratiquement une dissolution totale des formes gouvernementales sud-soudanaises et d'une certaine manière une sorte de statut intermédiaire, mais en général ces trucs-là ça marche pas, un petit peu comme on avait fait en Somalie après la Deuxième Guerre mondiale, avant l'indépendance. Le Sud-Soudan n'est pas capable de se gérer. Il n'y a ni suffisamment de personnel, ni une éthique nationale, ni le moindre sens de l'État parmi les gens qui cherchent à s'en occuper. Donc, qu'est-ce qu'on a eu depuis l'indépendance ? Une série de vols massifs des ressources budgétaires par le gouvernement lui-même, enfin par les personnes qui incarnent le gouvernement. Et on ne voit pas du tout quelle serait l'amélioration. L'amélioration de la paix serait immédiate pour les civils parce qu'on arrêterait de les tuer et de les faire mourir de faim. Mais au niveau de la gouvernance, il n'y a pas d'espoir.
Pour vous, est-ce que c'était une erreur de créer cet État du Soudan du Sud ?
Non, pas du tout. Mais avec le personnel qui s'en occupe, oui. Il aurait fallu une période de transition pendant laquelle il aurait fallu qu'on envoie un certain nombre de gens à l'école et puis qu'on ouvre aussi le champ politique à la diaspora émigrée que le colonel Garang, chef de la guérilla, avait toujours tenu à distance parce qu'il avait peur d'eux. Il voulait être le seul homme éduqué dans le mouvement de la guérilla et donc tous les gens qui l'entourent, à part trois ou quatre exceptions, sont des ignorants et des incapables. Corrompus, bornés, hein, totalement incapables de gouverner. Et par contre, il y a une diaspora avec des gens qui ont de réelles compétences, qui a toujours été tenue à distance et qui, évidemment, voyant à la fois la corruption et maintenant la guerre civile, s'incruste de plus en plus dans une vie à l'étranger et n'a plus d'envie. Il y a une énorme nostalgie chez beaucoup de gens. Ils voudraient revenir, mais quand ils voient ce qui les attend s'ils rentrent, peu le feront.
Gérard Prunier, chercheur émérite au CNRS et spécialiste de l'Afrique orientale. Nous sommes de retour au Niger pour continuer de suivre le travail de l'ONG Amam Iman qui, grâce à la construction de forages, est parvenue à apporter de l'eau à plus de 100 000 personnes dans la grande vallée de l'Azawak. Pour Ariane Kirtley, directrice de l'ONG, cette aide pérenne est aussi un moyen de stabiliser la région.
Vu que la plupart de notre argent vient d'écoliers, partout dans le monde. On travaille beaucoup avec les écoles aux États-Unis, mais même en France, au Japon, un peu partout. Et on a eu quelques fonds d'église, on a eu quelques fonds... On peut ramener un message de paix. Voilà, c'est grâce à ces personnes-là qu'on a pu apporter de l'eau à plus de 100 000 personnes. C'est grâce à ces personnes-là qu'on a pu améliorer votre santé, apporter même une éducation que vous avez demandé vous-même, que vos femmes, elles peuvent travailler et gagner un peu d'argent pour faire vivre vos enfants, etc. Donc c'est vraiment aussi un travail de tissage de liens pour créer en quelque sorte la paix dans cette zone qui en a vraiment besoin pour rester stable politiquement parlant.
Quels sont vos projets à court ou moyen terme ?
Bon, on a apporté de l'eau à peu près à 100 000 personnes, mais il y a à peu près 500 000 personnes dans cette zone. Donc on veut vraiment continuer à creuser des forages, amener tous les projets qui viennent autour des forages et continuer à amener un dialogue de paix dans cette zone jusqu'à ce que, je sais beaucoup dire, mais est-ce que toute la zone ait vraiment un accès à l'eau. Et on veut travailler dans le temps, parce que c'est pas juste en amenant un forage que le forage va durer dans le temps si on continue pas à faire les activités. Donc peut-être continuer pendant 20 ans, je ne sais pas. Mais on espère aussi travailler avec d'autres populations d'Afrique qui sont aussi très vulnérables, assez marginalisées. Par exemple, on avait étudié la possibilité de travailler avec les Pygmées en Centrafrique. Et eux, ils avaient vraiment besoin d'aide à l'éducation adaptée à leur culture, aide à avoir une santé adaptée à leur culture. Et souvent, c'est donc des populations à la base de nomades et qui sont vraiment mises à part. Et que personne ne s'intéresse beaucoup à eux. Donc on espère éventuellement pouvoir aider d'autres populations comme ça. Mais vraiment avoir un vrai impact dans cette zone du Niger avant de trop s'éparpiller.
On parle beaucoup de l'influence du climat aujourd'hui, évidemment du changement climatique, du réchauffement de la planète. Est-ce que vous avez constaté une aggravation de la situation pour ces populations finalement qui se trouvent au cœur d'une zone déjà très aride ?
Tout à fait. Alors, je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas rentrer dans le débat est-ce que c'est le changement climatique global. Mais ce qu'on va dire, c'est que si il y a 15 ans, ces populations vivaient de mares qui se formaient à partir de pluies qui pleuvaient 5 mois de l'année, et que là, depuis 15 ans, en 2005, il pleuvait à peu près 3 mois de l'année, et là, il pleut même pas un mois de l'année, il y a quelque chose qui se passe au niveau très drastique, qui fait que ces personnes n'ont plus d'eau. Et c'est ça qui... C'était la meilleure zone de pâturage dans toute l'Afrique de l'Ouest, cette zone. Une famille pouvait avoir 300 têtes de bétail et maintenant, ils n'ont plus rien. Et non seulement ils n'ont plus rien, mais eux-mêmes, ils n'ont plus rien. Il n'y a pas d'eau non seulement à boire, il n'y a pas d'eau pour faire de l'agriculture, donc pour remplacer le bétail. Donc effectivement, je pense que ça doit être une des populations au monde qui doit souffrir le plus de changement climatique.
Ariane Kirtley, directrice de l'ONG Amam Iman au Niger. Et nous sommes au Mali pour terminer l'émission avec notre rubrique éducation. Le programme élevage pour la croissance économique au Mali, ou également appelé L4G, financé par l'USAID, a organisé à Bamako un atelier de 2 jours sur la chaîne de valeur du bétail sur pied. De nombreuses femmes de Koro et Bankas dans la région de Mopti y ont participé. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
Cet atelier de 2 jours initié par l'USAID fait suite à des enquêtes dans la région de Mopti sur la chaîne de valeur du bétail sur pied. Djagili Sila, responsable du renforcement des capacités et partenariats au sein du programme d'élevage pour la croissance économique au Mali, qu'on appelle L4J.
Il s'agit de partager ces réponses-là avec les cadres de Bamako pour enrichir, n'est-ce pas, ce qu'on a obtenu comme résultat, afin de faciliter la mise en œuvre de ce qu'on va proposer comme acteur, parce qu'ici il y a des acteurs au niveau national parmi lesquels il y a des décideurs, donc en travaillant avec eux, nous pouvons arriver quand même à un point de vue général, harmonisé et accepté par l'ensemble des acteurs depuis les villages jusqu'au niveau décisif.
Tous les acteurs de la chaîne de valeur du bétail ont salué l'atelier de l'USAID. Dr Moussa Yoro Sissoko du programme de développement durable au Sahel occidental PADESO.
Et nous savons que ce bétail également est confronté à beaucoup d'aspects sanitaires, d'aspects de production, et de commercialisation. Cet atelier vient à point nommé pour résoudre un problème très important depuis la base jusqu'au sommet. Si je parle de la base, je veux parler auprès des agro-éleveurs. Améliorer les prestations en matière de prophylaxie, en matière d'entretien zoosanitaire et même en matière de commercialisation.
L'atelier a permis aux femmes venues des localités de Koro et Bankas d'étaler leurs difficultés. Dounion Ariata Maïga de la plateforme des femmes de Koro.
Une femme dans sa famille n'a pas accès aussi à l'élevage. Peut-être que quelques-uns peuvent accepter que la femme attache un bélier, mais la majorité refuse que la femme attache même un bélier. Donc tout ça sont des difficultés. Non seulement tu n'as pas l'accès à la terre, tu n'as pas l'accès à l'élevage. Et si aujourd'hui tous les problèmes de la famille t'incombent, c'est à toi que la famille est là, parce que les besoins sont énormes et les besoins sont multiples aussi.
Mamadou Dougoukoro Koulibaly, conseiller technique au ministère du Développement Rural.
Le bétail, c'est depuis le veau ou depuis le cabri ou l'agneau jusqu'à dans l'assiette. Et tout ce qui se passe là-dedans, il y a beaucoup d'acteurs. Peut-être que tous ne se connaissent même pas et tous ne voient pas du même œil le profit qu'ils peuvent tirer. Et l'intérêt d'une telle étude, c'est d'amener tout ce beau monde à la même table pour que chacun sache à chaque étape, il y a une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, si elle n'est pas équitablement répartie, on a des problèmes. Ça peut démobiliser des acteurs d'un maillon. C'est un maillon qui s'affaiblit continuellement. Dès qu'il se brise, la chaîne est brisée.
La participation des femmes à la chaîne de valeur au niveau local est d'une importance capitale pour l'USAID qui a financé ce programme. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Yemi Obadjimi. À la console, Mireille Dubinsky et Alfredo Santos. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique. Ou d'ici là, retrouvez-nous sur Twitter et Facebook, VOA Sahel Plus. Nous nous quittons en musique avec un hommage à Doudou Diane Rose. Le grand percussionniste sénégalais vient de nous quitter. Il interprète ici L.A. Waye Waye avec Julien Djouga. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Yeah.